Radio Libertaire, Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, alors qui reprend, alors vous voyez un peu là, hein, les horaires, 11h, donc je vous l'avais dit, à partir d'11h, nous recevons Marie-Claire Calmu pour ses chroniques de la Flèche d'Or. Alors, je vous rappelle tout de suite que c'est le 4e volume, ça c'est important, on va en parler ce matin, peut-être aussi des précédents. Alors les chroniques de la Flèche d'Or... Eh bien, pourquoi la Flèche d'Or? Alors, je vais vous lire ce qu'il y a, comme on dit, en quatrième de couverture. Lieu fabuleux à la Flèche d'Or. Lieu fabuleux qui porte des portes, transporte le char d'Apollon à travers l'éventail de la verrière, nous emporte dans la course du temps, l'infini des musiques et tous ces instruments qui vont s'accumulant au bras des faméliques funambules. Phénomène artistique, simple, sûr, doux, lunaire, c'est un drôle d'air qu'ils déplacent, obstinés, parfumés, vibrant comme leurs doigts sur la touche, la corde, l'archet, comme leur souffle, dans le cuivre embouché, comme leur voix écartelée aux limites de l'audible, souffrance et jouissance mêlées, l'impossible réalisé, le malheur éclaté, enchanté. Flèche, tu flottes sur ton air. Navire appareillé pour des fêtes princières, pour pauvre paumé un télo fonctionnaire, pour pauvre paumé un télo fonctionnaire, que ta cible soleil et de brillants repères, te laisse un peu dévier dans l'air, que tous les asphyxiés de la cité sont venus respirer dans le bruyant repère. Voilà Marie-Claire Calmu. Alors ce matin, alors tu m'entends pas? Ah, pas assez. Et là, comment on pourra faire alors? Il faudrait que tu te rapproches plutôt d'ici, parce que si tu m'entends pas,
pas bien.
Alors, écoute, ce que tu peux faire, alors voilà, tu vas te rapprocher de la cabine technique, et puis peut-être que là, tu vas pouvoir m'entendre, parce que je pense pas qu'on puisse mettre le son dans le studio, tu vois, je crois que ça sera difficile. Et je ne vois pas, hein, pour là, je ne vois pas de casque supplémentaire, peut-être que j'aurais pu te donner. Mais on va essayer d'y arriver. On est déjà arrivé comme ça, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai lu la quatrième de couverture, et ce matin, j'avais un petit peu commencé pour les thèmes de Chronique Hebdo. J'ai parlé des thèmes poétiques, hein, essayé des thèmes poétiques, d'aborder aussi d'autres sociétés comme une société des Indiens. J'ai parlé des Achuar, un peuple d'Amazonie qui vit radicalement autrement. Et j'avais cité Pierre Rabhi qui déclarait que nous avons dépoétisé nos sociétés. Et je pensais qu'en lisant ce quatrième de couverture, puisque tu l'évoques, hein, eh bien, essayer d'apporter un petit peu de poésie, justement, en lisant ce texte. Et alors, je voulais voir avec toi, tu m'entends? Tu m'entends pas beaucoup? Ah ouais. Non, alors là, on pourra pas, faudra, non. Et vous m'entendez pas? Tu m'entends pas? Alors, on va faire un petit réglage, hein, voilà.
Oui,
un petit réglage. Thank you. Radio Libertaire, voilà, on reprend et je pense que là, avec adaptation, Marie-Claire Calmus, eh ben voilà, peut-être c'est celui-là. Et donc tu m'entends ?
Oui, oui, oui.
Eh ben voilà, formidable, on n'est pas très loin. On est à peu près pour les auditeurs de Radio Libertaire. Donc on se trouve à peu près la possibilité, je vous dis, il y a une cabine technique et puis il y a le studio et on va y arriver. Donc ce matin, l'ouvrage Chronique de la Flèche d'Or, quatrième volume, Marie-Claire Calmus, alors j'ai lu, hein, puisque tu as peut-être pas entendu, mais tu le sais puisque tu l'as écrit, la quatrième de couverture. Alors, tu évoques la Flèche d'Or, alors si tu veux dire, parce que ce matin j'en ai parlé un peu, ce qu'était la Flèche d'Or pour les auditeurs, s'ils ne connaissent pas justement ce lieu, parce que ces chroniques, non seulement tu les as écrites, mais tu les as dites dans un lieu, au départ, qui s'appelait la Flèche d'Or. Et pour les gens, je pense, qui sont pas forcément de Paris, mais même les Parisiens, ils ne savent plus ce qui est arrivé à ce lieu qui ne l'est plus, qui n'existe sous une autre forme actuellement, et qui se trouve dans quel arrondissement de Paris ? C'est une ancienne...
C'est une ancienne gare de la Petite Ceinture, et qui est un lieu, comme le dit le poème que tu as lu, un lieu magnifique. Donc en soi, la grandeur du lieu, elle n'a pas changé. Mais dans les années 80, après 95, parce que 95 a généré, on ne le dit peut-être pas assez, mais comme Jacques Rancière, moi je pense que ça a été après 68, un des très grands moments politiques en France. 95 a généré toutes sortes de créations sociales, culturelles, artistiques, qui étaient extraordinaires. Alors, sur le plan social, il y avait la Maison des Ensembles, par exemple, et puis rue d'Aligre, et puis il y a eu donc cette fameuse Flèche d'Or qui a été prise en main dans le donc 20e arrondissement par une équipe qui visiblement avait des conceptions assez subversives de la vie artistique et qui pendant quelques années a donc animé ce lieu et avec un guitariste rencontré, c'est toute une histoire assez extraordinaire. Les libertaires m'avaient déjà indiqué la naissance de ce lieu. Et bon, j'étais curieuse de le connaître. Et puis, avec un guitariste rencontré au Salon de la Poésie à Saint-Sulpice, on a décidé d'y aller, de se proposer pour lancer des soirées. Et ça a marché. On était deux, trois la première soirée. Un comédien, le guitariste et moi, et on a tout de suite eu beaucoup de succès avec nos musiques, nos textes, etc. Et puis voilà, les artistes sont arrivés par masse, par vague, et ça a été un succès total le mardi, voilà.
Alors là, puisque je dis tu es au quatrième volume, donc tu as écrit plusieurs volumes avec ce même titre, hein, Chronique de la Flèche d'Or. Est-ce que je te demandais, donc, au départ, pour tu as dit des textes là-bas ?
Alors, là, tous ces textes-là, bien sûr, sont des textes nouveaux. C'est dans le premier volume qu'on avait, donc, les textes de départ, dont des deux, trois dialogues avec un comédien qui avait bien voulu se lancer dans cette aventure. Oui, tout simplement, parce que, mais je le dis, hein, il y a une introduction où tout ça est bien expliqué. En fait, quand j'ai vu qu'il y avait tant de monde qui nous écoutait, je me suis dit que les sketchs, je ne faisais pas encore de chroniques, c'était pas assez, il fallait faire autre chose. Quelques chansons aussi, je commençais à beaucoup chanter, et ça a été une inspiration, une intuition complètement folle, comme on en a dans sa vie, heureusement sur le plan de la création et sur d'autres plans aussi d'ailleurs. Et je me suis dit, pour répondre à cette demande et à cette foule en attente, sans exagération, il va falloir amplifier le message. Et j'ai dit pourquoi pas écrire des textes un peu plus généraux, un peu amples, un peu ambitieux philosophiquement, à partir du quotidien, et c'est comme ça que sont nées les chroniques. Mais là, bien sûr, j'ai continué, puisque ça s'est arrêté en 2002. Le lieu a fermé, et a été repris pour faire des concerts, tout le monde le sait, des concerts de célébrités, mais enfin, qui n'avaient plus rien à voir avec tout ça. Et donc, c'était lancé et j'ai continué à écrire. Et j'en ai aussi un cinquième volume prêt, qui est dit un terme. Raphaël de Surtis me publiera. Il me l'a promis. Lui, il est intéressé par ses chroniques. Il veut les suivre jusqu'au bout. Voilà. Donc là, vous avez des textes dans ce quatrième volume relativement récents d'écriture.
Oui, c'est ça. Alors, je voulais préciser, alors pour les auditeurs, à de rappeler, premièrement, puisque tu le fais dans l'introduction, tu rappelles que ces chroniques, tu viens de le dire, nées en 1996 à la Flèche d'Or, rappeler alors donc pour nos amis de province et d'ailleurs, que c'est l'ancienne gare Charonne de la Petite Ceinture.
Voilà, exactement.
Toute une poésie, hein, quand même. Faut rappeler ça, ce train de la Petite Ceinture, justement, qui était là avec l'ancienne gare, donc transformée maintenant. Alors ça, c'est une chose pour situer. Et donc, tes textes, tu l'évoques dedans, au contenu philosophique, éthico-politique, hein, voilà. Justement. Et puisque tu évoques aussi, pourquoi pas, hein, mais tu l'évoques, les essais de Montaigne, et c'est bien, on va dire aux auditeurs, essayez, plus que jamais, si vous n'avez pas encore lu l'ouvrage extraordinaire de notre ami Montaigne. Alors Montaigne, pourquoi ces essais? C'est pas un peu comme ça, des réactions au quotidien sur des événements. Hein, c'est un peu ce que l'on fait, puisque Chronique Hebdo, c'est ça, c'est réagir sur l'actualité. Alors, je dis souvent, l'actualité, leur actualité, l'actualité du monde, l'actualité qu'on nous impose, mais aussi l'actualité, puisque tu es sur Radio Libertaire, enfin, tu le sais, des libertaires, ou l'actualité, quelquefois, des anarchistes, et les propositions, justement, qu'on peut faire. Alors, pour ces chroniques-là, c'est pour ça qu'elles sont à la fois datées, hein, tu évoques certains événements, mais on voit justement que leur actualité persiste au travers d'événements qui quelquefois on se dit c'est l'actualité immédiate et puis la semaine prochaine on n'en parlera plus, et justement en les écrivant, eh bien tu veux montrer qu'on va en parler encore, et qu'elles sont à la fois quelquefois elles relatent un fait réel d'actualité, mais en relation évidemment avec un ensemble qui le dépasse, ce fait d'actualité, et on va en aborder plusieurs, par exemple ce matin, puisque j'avais commencé, on verra peut-être dedans, tu l'évoques un moment, puisque tu nous parles de l'entreprise, et tu as fait une chronique à partir du livre « Bonjour paresse » de Corinne Maillère, qui a travaillé à EDF, qui s'emmerdait profondément, et qui a décrit son calvaire, je pourrais dire, à l'intérieur de cette entreprise EDF, et à la fois, toi, tu reprends ça, puisque tu cites l'ouvrage, hein, « Bonjour paresse » de Corinne Maillère, et que tu abordes, justement, puisque là, j'évoquais, quand je viens de lire tout à l'heure, les paumés intello fonctionnaires, elle a dû en rencontrer beaucoup, évoquer ça peut-être avec toi dans cette chronique et montrer que tu l'as écrit à un moment donné par rapport à cet ouvrage, mais elle n'est plus que jamais d'actualité, puisque l'entreprise, et à un moment tu vas le dire, tu vas citer une phrase découpée, l'entreprise, ce que ça veut dire, l'antre, tu parles de...
Je me souviens.
Tu te souviens pas. Alors, évoque l'entreprise, je vais lire ce passage-là
entre
après.
L'emprise.
Voilà. Et de nous raconter ça. Et justement, je pense, je vais le retrouver. C'était Corinne, on va le rappeler, hein, Corinne Maillère, pour les auditeurs, c'était en 77. Hein. Et alors, voilà ce que tu dis. tu reprends dedans, on évoque Roland Barthes. Hein, on pourrait parler de l'entreprise dont Roland Barthes, cité par Corinne Meyer, auteur de Bonjour Paresse, hein, je viens de le dire, je recommande, hein, pas aller voir pour les auditeurs s'ils l'ont pas encore lu. L'entreprise, c'est formidable. Le mot n'est pas beau. D'abord, il y a lente, l'œuvre des poux. Puis il y a prise, comme si quelque chose s'attrapait, comme s'il y avait une emprise qui s'opérait. Et entre les deux, ce re qui ne va pas tarder à gêner le ri et qui sonne comme un ro. Bref, l'entreprise est grosse de l'emprise du parasite. Alors c'est assez fort, hein, puisque justement tu reprends Roland Barthes et là tu abordes le thème la question du travail. Alors je te cite ça puisque tu évoques aussi, tu as fait déjà, je vais le rappeler aux auditeurs, tu as écrit des textes dans le Monde Libertaire, hein, à partir des ouvrages de Bernard Friot.
Oui, hein, alors voilà. Je me permets puisque tu parles de Bernard Friot, je vais vous en dire deux trois choses et puis. Oui, je voudrais reprendre ce que tu dis de actualité immédiate et réflexion politico-philosophique. En fait, ce sont des chroniques assez politiques généralement, dans la mesure où, je les ai bien relues attentivement, évidemment, avant de venir, et il y a des thèmes qui se dégagent, alors vraiment, qui sont incontournables. J'irais qu'un des thèmes centraux, c'est vraiment l'idée d'égalité avec le féminisme, la chronique 165 par exemple, dont je vous lirai peut-être un petit passage si vous voulez.
Oui.
La chronique 195 aussi, l'égalité sociale, gagner sa vie a-t-il un sens, alors que d'ailleurs un article qui avait été publié par le Monde Libertaire et qui est lui alors très très général sur le fonctionnement de la société capitaliste. Et puis justement dans ce fonctionnement de l'ordre capitaliste, des chroniques à mon avis importantes, en toute modestie, sur la notion d'efficacité. Et c'est là que peut-être ce que tu me proposes là sur l'entreprise pourrait très bien s'y ranger. Il y a vraiment une chronique sur l'efficacité. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Et qui commence, puisque j'interpelle le public, hein, c'est ça quand je suis
oui,
en
scène. Oui, justement.
Alors, cher public, êtes-vous
voilà.
efficace? Oui. Ce qui est évidemment sarcastique. Qu'est-ce que c'est que cette efficacité? L'égalité, légitimité, et jusqu'au loisir en société libérale. Alors là, je dois dire, je me suis un peu lâché en comptant ce qui se s'organise à partir de certains clubs que je fréquente au niveau sportif, puisque je fais encore beaucoup de sport.
Tu faisais du badminton, hein?
Elle est amusante,
celle-là. Du badminton. Je crois que c'est du badminton.
Badminton, hein, et entre autres, oui. Gym et encore un peu de volleyball.
Oui.
Bon, moins qu'avant.
Ah oui, ah oui.
J'ai été une pratiquante de volleyball toute ma vie. Donc badminton et patins, oui, on en reparlera. Et alors justement, dans ce fonctionnement de la société capitaliste, il y a évidemment le travail qui est central, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Oui. Mais bien sûr encouragé et soutenu par des gens spécialisés, si je puis dire. Ils n'aimeraient peut-être pas beaucoup ce terme, mais enfin c'est tout de même ça dans ce domaine, et en particulier Bernard Friot. Alors justement, Bernard Friot, il y a une chronique sur qui a été écrite au moment du mouvement des retraites il y a quelques années. Et ce mouvement des retraites, j'étais moi-même retraitée d'Éducation nationale, mais je l'ai épousé complètement parce que c'était toute une remise en question du système du travail et de la séparation en quelque sorte mortelle entre la vie active et une autre qui ne le serait plus, ce qui est une connerie monumentale. Enfin, je sais que le Monde Libertaire a beaucoup publié là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert, grâce à Daniel Mermet, que je regrette beaucoup de ne plus entendre sur France Inter.
Mais on va l'entendre, hein. Il y a une possibilité à nouveau
oui,
sur le web.
Oui, c'est ce que j'ai entendu un matin qu'ils allaient le réhabiliter.
Voilà. Oui, oui.
Et il a présenté Bernard Friot un jour à une interview et j'ai été sidérée d'abord de la gentillesse, de l'aisance de ce monsieur et puis de ses thèses évidemment qui me correspondaient. Et je me suis mise à faire les recensions de ses livres. Donc j'ai Alors je suis pas du tout économiste de formation.
Mais c'est mieux.
Bernard
Friot, c'est mieux.
Et oui. Peut-être tant mieux.
Oui.
Alors j'ai commencé par l'enjeu des retraites. J'étais en plein dans le mouvement. Ensuite l'enjeu du salaire. Et Émanciper le travail, qui est son dernier ouvrage, et il a été très heureux de mes chroniques et de mes critiques, puisque ça a été publié comme critique de ses livres, et on s'est rencontrés dans une, c'est vraiment très romanesque, dans une manif très globale, générale, hein, contre le libéralisme et je vois Réseau Salariat sur le bord qui distribue ses tracts, mais j'ai dit, j'ai écrit des critiques des livres de Bernard Friot qui m'a beaucoup remercié par l'intermédiaire du Monde Libertaire et qui m'a renvoyé un livre donc, et je voudrais le rencontrer, est-ce que par hasard, et Bernard Friot était là. Et dès que je lui ai dit que j'étais Marie-Claire Calmus, il m'a dit « Madame, je ne saurais comment vous remercier du travail que vous avez fait, ça me correspond tout à fait ». Alors je lui ai dit « Mais écoutez, monsieur, je ne suis pas économiste, mais nous, c'est pas de ça qu'il s'agit ». Et il m'a baisé la main en pleine manif, à la stupeur générale. Donc
oui,
ça je trouve que c'est une image de film. Donc Bernard Friot va venir à Publico.
Ah oui. Ah,
on peut l'annoncer officiellement.
Ah bah si tu as justement au contraire.
On a réussi à trouver une date qui lui convenait. Il était enchanté de venir, je le précise. Quand je lui ai proposé, Laurent était évidemment tout à fait d'accord à Publico et il viendra donc le 6 mars, un vendredi à 17h30. Ah pardon, à 19h30. Et ça vient de se fixer. Et il va faire lui-même une émission sur Radio Libertaire bientôt, je crois.
D'accord. L'annoncer. Alors, j'ai pas dit ce matin pour les auditeurs. Bon, ils savent l'adresse. On va la rappeler. Publico, 145 rue Amelot, Paris, 11e. Hein, c'est dans le 11e. 11e célébrité, malheureusement, vous le savez, puisqu'on en a beaucoup parlé sur l'ensemble de la planète, certainement, de connaître après les événements terrifiant ce qu'il y a eu de savoir, on l'a dit, le lieu où ça s'est passé pour nos amis de Charlie Hebdo, la proximité donc du lieu où il se trouvait avec la rue Amelot, hein, puisque j'ai appris qu'il fréquentait un petit restaurant. Donc, il se trouve rue Amelot, qui s'appelle Les Petites Canailles. Hein, donc, voilà, pour se souvenir. Alors, là aussi, je le rappelle, et aux auditeurs, je l'ai pas dit ce matin, 145 rue Amelot, faut dire que c'est le siège, comme on dit, social, hein, de Radio Libertaire, du Monde Libertaire, et puis la librairie est ouverte tous les après-midi à partir de 14h, le samedi le matin, donc ça il faut le rappeler, et vous pouvez éventuellement donc, et souvent, venir à Publico, qui organise beaucoup de rencontres, hein, que ce soit le vendredi, ou le samedi en général c'est à 16h30, le vendredi ça peut être à 19h ou 19h30, donc suivez aussi cette possibilité et vous trouvez toutes les informations, on vous le dit, hein, au moins il y a ça pour internet à aller voir pour le Monde Libertaire. Donc eh bien c'est une annonce en ce qui concerne la venue de Bernard Friot à Publico un samedi, hein, tu penses c'est un samedi?
Non, c'est un vendredi.
Vendredi, donc, ça sera 19h30.
Vendredi soir à 19h30.
Ah oui, précisez, vendredi.
6 mars.
6 mars, voilà. Alors, mettez ça, notez ça sur vos tablettes, entre autres par rapport à Publico. Alors, je le dis, hein, c'est plus que jamais d'actualité. Allez fréquenter cette librairie pour tout ce que vous pourrez y trouver, évidemment, tous les livres. Et les revues, hein, vous pourrez trouver les revues, vous pourrez trouver des DVD, vous pourrez trouver des disques, des CD, tout ça, et en particulier, justement, vraiment des bouquins que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Hein. Donc l'importance de fréquenter Publico, et aussi en particulier, vous pourrez trouver Chronique de la Flèche d'Or de Marie-Claire Calmus. Hein, certainement,
tout à fait,
avec les
tous
ouvrages,
mes livres, je
voilà,
pense, sont
à Publico. Alors, Marie-Claire, tu évoquais Bernard Friot. Alors, il y avait une autre personne dans ce thème-là, puisque j'en ai parlé ce matin, à partir de deux ouvrages, et quand même, qui sont assez forts, Le degré zéro de l'entreprise. Le degré zéro de l'entreprise, où justement, à partir d'un bouquin, La faillite de la pensée managériale, je le rappelle, de François Dupuis, où on évoque l'inculture des élites et le désert culturel des entreprises. Et à ce sujet, j'ai cité un film qui est passé sur LCP il n'y a pas longtemps, sur 15 patrons français, et qui est un film d'horreur, enfin un film d'épouvante. Hein. Bon, si vous pouvez le regarder, vous pourrez le retrouver. Entre autres, il y avait Christophe de Margerie, il y avait Anne Lauvergeon, il y avait Denis Kessler. J'arrête là la liste parce que tous les uns plus affreux que les autres. Tu évoquais justement par rapport au travail, pilier de la société quand même capitaliste, puisque l'identité première des gens, on leur demande pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein, qui êtes-vous. On leur dit pas qui êtes-vous, on dit qu'est-ce que vous faites. Hein, tu sais ça, qu'est-ce que vous faites. Et je dis souvent qu'en Italie, c'est un peu l'inverse. Ils disent pas je suis instituteur, pourquoi pas, hein, mais je fais. Donc il y a pas la multiplicité des identités, ça c'est important, et c'est un peu l'identité première. Tu travailles, tu es chômeur, et tu l'évoquais tout à l'heure, et tu es retraité. Hein, voilà. Et après, et on te prépare justement à ça par l'école, par le collège, par le lycée. J'évoquais, et tu sûrement, un ouvrage, puisque Christophe Dejour est venu dans cette émission, pour l'ouvrage, enfin pour un autre ouvrage, hein, pour l'ensemble de ses bouquins, et celui-là, il l'a écrit il y a pas mal de temps, Souffrance en France. Hein.
Ah oui, c'est un livre superbe.
Un beau titre, exactement.
Superbe.
Et donc tu cites Essai, et c'est déjà en 2000. Okay. Ça fait quand même 15 ans. Oui. Et on l'a évoqué déjà sur cette antenne, c'est un peu quand même, on évoque cette question du travail, parce qu'on considère que c'est très important, évidemment, cette question, elle est même déterminante, et je vais te dire pourquoi, parce que tu l'évoques un peu dans tes chroniques. On a eu très longtemps, et de temps en temps ça revient comme ça, une petite rubrique autour du travail. J'aurais pu intituler ce que j'ai parlé tout à l'heure de ces entreprises, et en particulier de cet ouvrage, La faillite de la pensée managériale, qui s'appelle Herbart Marfrey, puisque tu parles un moment collaboration, et puis tu évoques le nazisme. Et donc Herbart Marfrey, comme tu le sais sûrement, on l'a dit, pourquoi l'appeler, des gens étaient un peu étonnés, eh bien c'était l'inscription des camps de concentration, hein, et d'extermination nazis, mais c'était aussi le slogan du patronat allemand dans les années 20-25, c'est-à-dire Herbart Marfrey. Et donc, c'était l'entreprise Farben, qui était à l'époque, qui a fait, par la suite, justement, une entreprise chimique, le Zyklon. Hein, tu vois, comme tout ça se tient. Ouais. Et donc, évidemment, les gens allaient surprendre quand on dit on évoque le travail à Herbart Marfrey, mais on voit que les régimes totalitaires, que ce soit le régime nazi, aussi en Union soviétique, la rééducation, hein, tu sais, dans tous les systèmes totalitaires par le travail. Mais on peut se poser la question, quand on parle de rééducation, si dans nos systèmes, notre système capitaliste, nos sociétés libérales, ce n'est pas une éducation qui doit se faire par le travail. Sauf que si, je viens de le dire tout à l'heure, c'est la défaite de la pensée pour ce qui c'est du monde des entreprises, eh bien cette éducation par le travail est une catastrophe. Alors c'est évidemment un thème abordé dans l'ouvrage de Christophe Dejour, dans beaucoup de ses bouquins, à partir de ce titre, hein, Souffrance en France, même si Christophe Dejour aborde des aspects positifs, qualitatifs, en particulier si les gens participent, mais c'est toujours la fameuse question, s'ils le choisissent, et si c'est pas quelque chose qui est évidemment forcé, mais si ça vient d'eux-mêmes, là on peut parler de choses différentes. Alors, par rapport à
oui,
ça, voilà, je
me rappelle, je sais plus si c'est dans Souffrance en France ou dans un autre livre de deux jours. Moi, ça a été réutilisé dans une de mes chroniques,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tu
peux dire c'est ça. Il ose comparer.
C'est pour ça,
je crois que c'est dans une des plus générales, d'ailleurs, c'est dans la chronique Complices et collaborateurs.
Exactement, et collaboration, la chronique 205.
Et il ose comparer l'endoctrinement au travail et l'emprise de l'entreprise sur le travailleur à la collaboration et presque au système nazi.
C'est ça,
dans Souffrance en France. Le garantis pas. M'avait tellement, tellement frappé cette comparaison. J'avais trouvé ça d'une audace incroyable. Moi, j'avais jamais lu quelque chose de cette force-là sur le travail. Que j'avais justement éprouvé le besoin d'écrire une chronique là-dessus. Alors c'est là, si pour en revenir un petit peu à l'ordonnancement des textes, l'ordonnancement pas voulu au départ, mais qui en fait se fait par la matière, c'est que ce qui peut s'apparenter, je crois que quelqu'un me l'avait dit, à des espèces de caractères de la Bruyère 2015, c'est-à-dire des chroniques extrêmement générales et en fait partant d'un point de vue presque moral, on pourrait dire, au sens très large du terme, on rejoint bien sûr des sujets extrêmement politiques. Ça, c'est... Je pense que il faut le dire, c'est ma façon de faire, et c'est pour ça, ça rejoint tout à fait Montaigne, qui est vraiment toujours une source de réflexion absolument extraordinaire sur tous les grands thèmes de la vie et de l'histoire aussi, on peut dire, avec un grand H. Et je pense que là, c'est quelquefois. Quelquefois l'actualité, mais quelquefois en même temps ou à part, des lectures, donc de jour, bien sûr, que tu citais, et puis des gens comme Friot, et puis un autre qui est notre auteur illustre, je dirais, essentiel, qui est venu aussi à Publico et qui reviendra, parce qu'il avait été enchanté de...
Jacques Rancière.
Sa première rencontre à Publico, c'est Jacques Rancière, évidemment, que je connais bien maintenant et dont j'ai aussi recensé beaucoup, beaucoup de livres, là, énormément de livres. Alors, si tu veux bien, je voudrais bien lire un petit, reparler un peu du travail. Qui est tout de même en effet un thème tout à fait central. Je voudrais dire un tout petit passage de l'efficacité, justement, et qui va réintroduire un petit peu le ton aussi. Alors c'est une chronique pas très longue, mais enfin trop longue pour que je lise tout à l'antenne. Et à la fin, je m'adresse au public. Cher public, êtes-vous efficace? C'est-à-dire, obtenez-vous dans les délais prescrits les résultats escomptés? Votre réflexion, renonçant à toute disposition critique pour se reporter sur l'exécution de l'action, la plus fidèle possible au plan imposé, latent ou patent. Rien ne doit dépasser, s'improviser. Interdit de déborder, d'inventer, de faire durable, du surplus, des miettes. Les points d'application des actes, le schéma des déplacements individuels comme des mouvements relationnels sont minutieusement établis. Le parcours général le plus proche possible de la ligne droite. À y réfléchir, la furie de sécurité, voire Zygmunt Bauman, qui l'analyse, lui, comme le relais tactique du défunt soutien de l'État aux citoyens en matière de sécurité économique, me semble avoir rapport avec cette efficacité. C'est la chasse au hasard, à la poésie, aux attractions, source de mauvaises rencontres, de flou, de vacillement, de risques nuisibles à la rentabilité et à l'ordre. On vous rassure contre tout et vous devez impérativement rassurer tout et tous. Sinon, au trou. Pour qu'au bout de ce trajet normé, vous arriviez à celui-ci plus directement et sans surprise. Car contre lui, hélas, il n'y a pas encore d'assurance efficace.
Alors, oui, ce texte, alors, il y a plusieurs, évidemment, rappelés pour les auditeurs, donc le nombre de chroniques hein, dans cet ouvrage, puisque c'est le quatrième que tu as noté. Et là, pour celui-là, parce que tu évoquais le cinquième, j'avais noté donc 210 chroniques pour ce quatrième volume. Donc on évoquait alors aussi, on va peut-être faire une partie musicale, je ne sais pas, puisque on va avoir beaucoup de choses à se dire. Évoquer à un moment, je trouvais ça intéressant par rapport à tout ce qui est dit en ce moment, tout ce blabla dont j'ai évoqué. Alors c'est les deux choses, tu as évoqué qu'il y a des écrits qui semblaient un peu plus de tenue dans différents journaux après les événements que nous avons subis hein, par rapport à évidemment la tragédie de Charlie Hebdo, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et je pensais que ça serait bien puisque j'ai évoqué GB ce matin au début de cette émission avec l'an 01 hein, on arrête tout et réfléchit. Tu évoques dans une de tes chroniques le numéro, c'est la chronique numéro 186, le droit de retrait. Et le droit de retrait, pourquoi ? Par rapport à Roland Barthes, c'est-à-dire de se mettre en retrait du langage, de laisser reposer le langage à un moment et de rester silencieux. Tu vois, il a parfois envie de laisser reposer tout ce langage qui est dans sa tête, dans son travail, dans les autres, comme si le langage était lui-même un membre fatigué du corps humain. J'ai trouvé ça très bien, ce que tu avais noté par rapport à ça, puisque tu le mets, il lui semble que s'il se reposait du langage, il se reposerait tout entier par congé donné aux crises, aux retentissements, aux exaltations et aux blessures. Et c'est un peu ce que l'on vit.
Oui,
et
alors voilà. Moi j'ai beaucoup aimé cette phrase de Barthes, parce qu'en fait, quand on écrit, c'est tout de même mon cas, j'écris tous les jours des choses diverses, ça peut être de la poésie, ça peut être une chronique, ça peut être un incident, là je suis en panne d'ordinateur, je raconte à Robert.
Quelle chance.
Elle m'a suggéré d'écrire un sketch.
Oui, oui. Aussi, donc j'ai écrit un sketch. C'est ça,
parce qu'il y a tout de même des sketchs hein, ce livre, trois sketchs. Oui. Il y a un sketch sur un accident de voiture, les photomatons et sur ce qu'est devenu la poste.
Tu peux raconter après, ouais, vas-y alors.
Voilà, ça c'est un autre aspect, dernier aspect, si l'on peut dire, après ceux qu'on a cités.
Oui.
Et donc là, c'est intéressant cette chronique-là parce que... Oui, donc je voulais dire d'abord à propos de Barthes que vis exactement ça.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est pas du tout pour me comparer à Barthes, vous pensez bien, mais c'est que le langage nous est consubstantiel, le langage écrit, hein, l'écriture. Et qu'en fait, c'est en même temps exaltant et c'est en même temps usant. Extrêmement fatigant. C'est-à-dire qu'il nous happe. On est happé par la nécessité d'écrire. Et ben dans ce qui m'arrive là, le plus d'ordinateur, plus internet, je redécouvre. J'ai appris que Charb n'avait ni ordinateur ni portable. Ça c'est tout de même intéressant. Le canard enchaîné qui lui rend hommage nous le rappelle.
Ouais.
Et que on a donc toujours le crayon et le papier.
Oui.
Et retrouver je me suis rendu compte que la fin d'écrire restait la même et que ça passait par des choses plus anciennes, mais que c'était la même chose et c'était le même processus, et que c'est un processus passionnant, mais en même temps terriblement fatigant, parce qu'on est là, on est dans le langage. Je ne sais pas comment dire, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, dans les rencontres qu'on fait, dans les échanges qu'on a avec les gens, comme avec les écrits, on est, le langage est premier. On est, il nous a fait. On le fait aussi, voilà. Mais il nous fait.
Il nous fait.
Je vous donne un petit exemple. Je vais dans un nouveau lieu où je vais jouer d'ailleurs le 31 janvier, là, qui s'appelle le Deauville, à 57 rue de Pixérécourt, et on devait faire un café philo avec un ami, enfin café philo, café littéraire à partir de mes œuvres. Et il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas eu de pub assez. Bon, il y avait trois personnes. Et je commence par leur expliquer la situation aux gens. Je dis, vous savez, moi j'avais préparé les choses, mais voilà, je vous explique ce que je fais d'habitude, mais là, il n'y a pas grand monde, je vais vous dire un poème peut-être, et j'ai pas chanté. Et je dis deux, trois phrases. Et une jeune femme qui était là me dit, écoutez madame, peu importe ce que vous faites, mais surtout n'arrêtez pas de parler. Ah, j'étais sidérée. Et je la regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me dit, vous entendre le langage, c'est déjà formidable. Et moi, je m'en lasse pas. Et c'était une personne que je ne connaissais pas, et qui était relativement cultivée, visiblement. Mais bon, j'avais pas dit de texte encore, ou j'avais dit un poème. Donc je crois qu'il y a bien sûr que... le langage nous fait, et on est le langage, mais il faut rappeler que c'est une hantise qui nous préoccupe sans arrêt. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bon, les événements, je pense qu'on est tous sous le coup de ces événements, mais il faut en tirer toutes les leçons politiques. Du coup, j'ai écrit un texte. Un ami m'a dit, vous devez écrire un texte. Alors, c'est bien gentil, mais sur le coup, j'étais comme vous, complètement anéanti.
Sidéré,
sidération. Et le soir même, le texte disait à Robert Tortet que le texte, je l'avais déjà. Parce que j'avais un livre dans le métro, j'ai écrit sur le livre, carrément, la page blanche à la fin. Le texte, il était fait. Et alors maintenant, ça part où ça peut, avec pas beaucoup de remous.
Oui, alors, c'est pour ça, quand tu évoques Roland Barthes, je disais, a souhaité pour certains que ça s'arrête, que le débit de parole, le débit, le glouglou médiatique est, comme jamais, surexcité après ce qui s'est passé, on pourrait dire. C'est pour ça que je disais que la lucidité, je me retire, j'attends un petit peu pour obtenir GB, on arrête un peu, et puis on prend un peu de distance, et après, peut-être on recommencera. Et là, on voit beaucoup de gens pour qui c'est une nécessité, je te comprends évidemment, quand tu l'as ressenti, mais on pourrait dire que pour les médias, c'est presque une obligation d'en déverser, de déverser des tombereaux, et je trouve d'ineptie, comme jamais. Alors les chaînes en continu, n'en parlons pas, on n'est pas obligé de les regarder, mais si on voit l'ensemble des radios, la multiplicité de ces médias, c'est carrément, j'ai dit, une force de frappe gigantesque, enfin un bombardement médiatique et dangereux. Et c'est pour ça que je trouvais, par rapport à Barthes, quelquefois pour toi ou comme pour nous, cette nécessité peut-être de s'arrêter un peu, de prendre un peu de distance, parce qu'on n'arrive plus à se rendre compte de quoi que ce soit, étant donné qu'on est pris par le bruit, le tintamarre de tout ce bruit furieux, de la fureur du monde, on pourrait dire. Alors certains disent, on peut y échapper, mais comme je disais ce matin au début de cette émission, dans les villes c'est peut-être un petit peu difficile, et puis même dans les campagnes, on sera rattrapé dans les campagnes, parce que tu te baladeras sur un chemin de campagne, il y aura peut-être une bagnole de gendarmes ou de flics qui viendront voir ce que tu fais là. Donc, tu vois, là, dans le monde dans lequel on est en train de s'installer, je pense que c'est épouvantable, et même peut-être cette possibilité de se mettre un petit peu en retrait et à l'écart, ça sera même plus possible, parce que je l'ai dit souvent sur cette antenne, tu l'as évoqué, nos amis de Tarlac, hein, rien que ce qu'ils voulaient faire à Tarlac, tu en parles, de par rapport à cette épicerie. Ce qui était plus dangereux, c'est de pas devenir épicier, mais c'est qu'eux qui étaient promus à une brillante carrière, en particulier un coupable de qui avait fait, je pense, cette école normale supérieure, s'était dit j'ai autre chose à faire peut-être après, aller réfléchir et prendre un peu de distance. Et même là, on les a pas laissés tranquilles puisqu'on est venu les chercher comme des terroristes. Là, on le dit au petit matin et on les a arrêtés. Et là, on sait très bien que tout ça, ça a fait pchit, comme dirait un autre par rapport à ça. Alors c'est pour
oui,
ça.
Cette
voilà, tu l'as évoqué,
c'était...
hein. Oui. C'est pour ça et pour montrer que à l'époque, quand tu l'as fait dans une chronique, que c'est toujours en relation avec ce que l'on vit, et ne pas voir des chroniques comme quelque chose de très pointu, très daté, et qui ne serait plus
oui,
d'actualité. Hein,
ouais,
c'est
ouais.
Ça. De donner...
Là, j'avais réagi d'ailleurs très vite, puisque j'étais même passé à Publico. Et je connais aussi bien l'autre fraction, c'est un peu dur, mais les libertaires autour de Jean-Pierre Dutheil, puisque Jean-Pierre Dutheil a été mon premier éditeur d'un livre sur l'école, et on est restés très amis. Il m'a beaucoup soutenu dans ma vie aussi, dans des moments extrêmement durs. Et donc, c'est un ami très cher, même si je ne suis pas d'accord avec tout.
Oui,
et je sais que
sûr,
je les avais secoués, on peut dire ça, en disant, mais qu'est-ce que vous faites là-dessus? Enfin, ils hésitaient d'en savoir plus. Ils attendaient d'en savoir plus, hein, comme tu le dis. Mais moi, j'avais tout de suite écrit un texte. Et je crois pas m'être trompée sur l'analyse. Mais bon, alors, pour en revenir aux événements actuels, là, on est dans on a vu émerger à propos de cette tragédie une situation donc qui devient une situation presque d'urgence entre guillemets, sans tomber dans l'état d'urgence évidemment au plan national, mais où je pense on doit prendre des positions. Voilà, c'est pas tant de faire valoir ses talents d'analyse, de commentateur, que un devoir politique. Et ah, d'ailleurs, c'est ce que les gens de Charlie nous demandent, c'est-à-dire,
oui, hein, oui, bien sûr.
Alors les médias,
les
je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a eu une surcouverture de l'événement
pour étouffer la pensée
par la télévision en particulier. Mais dans les journaux, il y a des articles tout à fait intéressants et très divers. Hein. Moi, j'ai eu Marcella Yacoub dans Libé. C'est épatant, elle est très courageuse. Parce qu'elle dit des choses, au fond, qui correspondent aussi à ce que je pense. Il faut avoir le courage de ses positions et les rendre publiques dans la mesure où, malgré tout, comme la grande marche qui a eu lieu, là, qui était tout de même extraordinaire, plus on rendra public nos positions, plus on se manifestera comme une force contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre les menaces et cette espèce de chantage criminel qui est fait contre nous et contre nos convictions, nos idéaux, et que c'est là la publicité au sens général hein, du terme des positions, elle devient une arme, elle devient évidemment qu'on s'expose aussi, il faut s'exposer historiquement, ça a toujours été comme ça, mais la publicité, la nôtre de nos convictions, devient une arme, c'est un retour contre l'adversaire. Et même si ça fait du bruit, si ça dérange beaucoup de gens, y compris à gauche, hein, parce que moi je suis en plein dans ce marasme-là, dans la revue Mouvement à laquelle j'appartiens, il faut avoir le courage de dire ses positions. Il y en aura d'autres que la nôtre, c'est très bien, le pluralisme existe, mais il ne faut pas reculer, quoi.
Oui, alors, je pense aussi, mais pas développer, on n'aura pas beaucoup de temps, que tu dis de revenir et de pas oublier, enfin, puisqu'on est sur cette radio, ni Dieu ni maître, que le combat, hein, avait été un peu laissé de côté contre les religions. Contre le côté, alors certains parlent évidemment de la laïcité, hein, sans revenir sur le concept de la laïcité, de dire c'est bon de le rappeler, mais c'est bon aussi de rappeler, bon, on développera ça peut-être une autre fois, la virulence de ces religions, et qui a été quelque chose qu'on laissait un petit peu faire, puisque soluble dans une forme de merdonité, hein, comme je dis, comme disait Léris, et de pas faire attention à toutes les religions dans leur côté à développer de plus en plus s'investir dans la sphère publique plus que jamais. Et certains viennent de le rappeler que l'État justement subventionnait, donnait de plus en plus de pognon à des communautés pour se retirer. Des services publics un petit peu comme privatiser évidemment l'espace public comme aux États-Unis, et de plus en plus c'était quelque chose qui était mis en place parce qu'il y avait derrière l'État à coquiner à religion, de mon point de vue, à vouloir contrôler certaines populations. Et là on voit évidemment que le contrôle, plutôt que de contrôler les gens et de les calmer, eh bien, j'ai l'impression plutôt que ça les excite. Et ça les a excités. Et là, on l'a vu, le résultat, un des résultats, il n'y a pas que celui-là, il y en a beaucoup, hein, depuis longtemps, de tout un tas d'histoires, et comme on l'a rappelé pour Charlie Hebdo, comment ils ont été plusieurs fois pourchassés de nombreux procès avec la secte du Vatican, avec l'Église catholique, les associations Civitas, et aussi des pièces qui n'ont pas pu être jouées comme au rond-point des Champs-Élysées, il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'était un peu laissé de côté en disant chacun bricole dans son coin, si c'est dans la sphère privée, on n'a rien à redire. Mais la sphère privée, elle est privée de quoi, souvent? La sphère privée, malheureusement, puisque tu évoquais le langage tout à l'heure, chacun, même dans sa sphère privée, est rempli d'un langage, est rempli d'une culture, est rempli de, comme je dis, les familles, les enfants, ils appartiennent à qui, les enfants? Ils appartiennent à eux-mêmes? Est-ce qu'ils appartiennent à leur propre famille? Et de penser qu'une famille, dans l'ensemble, bah, ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, et bah, le malheureux gamin qui naît, je pense, tout petit athée, hein, il n'est pas dans cette disposition-là, et ben vite, rapidement, il est imprégné de tout ça. Et donc, il faut, il me semble, je l'évoque quelquefois sur cette antenne, une réflexion à aller bien au-delà de la laïcité, en pensant que les religions, si elles restent dans le domaine privé, elles ne sont pas dangereuses. Mais le domaine privé, oui, elles sont quand même...
Il y a eu pas mal d'articles. Oui, les journaux en ce moment ont un niveau, journaux généraux, je dirais, Libé, Le Monde, ont beaucoup plus intéressants. Moi, je les disais quasiment plus.
On comprend.
Il y a des articles là-dessus, justement. Oui. Il y a quelqu'un dans Libé, je crois, je ne sais plus qui revenait sur cette différence entre privé et public. Moi, j'ai écrit un livre, hein, qui s'appelle Privé-Public, mais qu'il faudrait réécrire, parce qu'il viendrait si un... D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il faut faire.
Hein, repenser
toutes ces notions-là.
Bien sûr.
Mais tout de même, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je veux dire, le privé... alors en 68 on avait ce slogan, tout est politique, et je le vis complètement depuis toujours, depuis au moins cette période, tout est politique.
Tout est politique.
Mais tout est politique ne veut pas dire que tout est public. C'est différent. C'est-à-dire que la vie privée peut être parfaitement politique dans les options qu'on fait, dans les décisions qu'on prend, souvent douloureuses, pour remédier à des situations qui ne sont plus supportables, des explications qu'on a le courage d'avoir, etc. Donc ça, c'est politique, parce que ça demande une espèce de vision globale de notre être et de nos relations donc dans ce monde, dans cette société. Donc je suis d'accord avec ce slogan, tout est politique. Mais il y a tout de même la différence entre vie privée et vie publique. Et pour la religion, je pense que c'est tout de même un axe, un critère de distinction, de limitation, n'ayons pas peur des mots, qui reste extrêmement valable. Donc cet homme ajoutait quelque chose, il a raison. On dit que la religion est de l'ordre du privé, et je suis tout à fait d'accord avec ça, elle devrait rester dans l'ordre du privé au sens du choix personnel de chacun, mais elle s'exerce aussi dans des lieux relativement publics, comme pour la religion musulmane, les mosquées, nous, les catholiques, les églises, etc. Oui, etc.
Voilà.
Ça, faut pas l'oublier. Et c'est important, parce qu'il peut se développer, non plus dans les églises, parce que la religion catholique, elle est en voie de disparition, je dirais, enfin chez nous.
Mais
les mosquées, par exemple, oui. On a vu qu'hélas, ils pouvaient s'y tenir des prêches extrêmement radicaux, offensifs, qui ont favorisé l'endoctrinement de ces jeunes et d'autres. Donc, c'est là, on est sur une arête extrêmement délicate et grave. Car ce public-là, dans lequel la religion peut s'exprimer, il peut devenir une occasion de prosélytisme, bien entendu. Et c'est là que il faut faire très très attention. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le caractère privé du choix religieux, comme sexuel après tout de chacun. Voilà, on vit comme ça, on croit comme ça, on aime comme ça, mais que dès le moment où ça devient une idéologie qui va tenter de gagner la société, de s'imposer, y compris par la violence meurtrière comme on l'a vu, là on dit non. La laïcité, elle se définit aussi comme ça. Moi je veux pas qu'on l'oublie. Et on avait parlé ensemble déjà de des très bons articles de Monsieur Berthier, c'est bien ça ?
René Berthier.
Dans Le Monde Libertaire, qu'on pourrait le relire.
Allez,
où il a le courage, et au fond le texte que j'ai écrit moi, je ne pensais pas à lui spécialement, mais le rejoint totalement. On doit avoir le droit de critiquer toutes les religions.
Bien sûr, toutes,
sans exception, car si on emménage une, d'abord on cesse d'être objectif, et puis ça prouve qu'on a reculé, on a peur, on a peur, on recule. On a peur non seulement du terrorisme, mais on a peur du jugement que peuvent porter nos amis d'habitude, nos proches, qui va mélanger les choses, alors qu'on est tous des antiracistes convaincus. On est vraiment là, plus la peine d'en parler. On a fait nos preuves sous toute forme depuis toujours, et il ne s'agit pas là de racisme du tout. Que de traiter la religion musulmane comme la catholique, comme la bouddhiste, comme avec sévérité, lorsque des débordements comme ceux qu'on a vus là, horribles, et même moindres, se produisent.
Marie-Claire, alors, tu sais, c'est l'horaire de l'émission suivante, presque midi. Alors, on a abordé des thèmes sérieux, mais non, je vais pas dire sérieux, c'est très important. C'était une période particulière, et c'est vrai que je voulais évoquer tes sketchs, c'est dommage, enfin tu reviendras pour parler, mais oui, mais justement, Photomaton et à la poste.
Photomaton qui avait fait rire Robert, c'est grâce à elle que je les ai remis en piste sur scène.
Et rapidement de parler aussi, tes trois coursiers, la bride de tes trois coursiers, je voulais en parler, la peinture. on n'aura pas le temps. Et l'écriture et le théâtre. Alors l'écriture, oui, le théâtre, on en a parlé, mais pas la peinture. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres que tu as faites et des expositions.
Oh,
donc,
j'arrête pas. Oui,
de tableaux. Et ça,
voilà. Je peins aussi beaucoup, beaucoup de portraits en ce moment.
Et oui. Tu dis mes trois coursiers. Pourquoi? Alors juste ça, on va terminer là-dessus. Ce que tu appelles tes trois coursiers. Dans ton texte, de tenir par la bride, il faut mon permis de tenir par la bride, mes trois coursiers qui te donnent la force, je pense, de vivre.
Hein, c'est très juste, ça c'est reste ça. Juste. C'est les c'est trois ça. Coursiers, il faut que je les tienne en même temps comme au cirque.
Oui,
comme... C'est pour ça que j'aime aller au cirque, parce qu'ils oui. conduisent trois chevaux en même temps.
Exactement. Bon, Marie-Claire, alors on est obligé, parce que c'est un peu comme ça, nos amis n'ont pas fait l'émission la semaine dernière, donc de rimes et de notes, hein, la chanson évidemment non crétinisante, comme dit notre ami Floréal, et sur cette antenne jusqu'à 14h, donc c'est la prochaine émission. Alors je te remercie d'être venu justement pour évoquer, pour parler de ton ouvrage dernier, en attendant le cinquième volume chronique de la Flèche d'Or, Marie-Claire Calmu, éditeur Raphaël de Surtis, que vous pouvez trouver, je vous le rappelle, à Publico, 145 rue Amelot. Alors je te remercie d'être venu, et je remercie aussi à Robert Tortet d'être venu dans le studio de Radio Libertaire, qui interviendra une prochaine fois, et de la remercier pour sa participation, justement, soit au Monde Libertaire, et puis aussi à Radio Libertaire, puisque Robert est souvent dans les locaux et les studios de Radio Libertaire. Donc, Robert, je te dis à la prochaine fois. Et puis, Marie-Claire Calmune, le cinquième. Eh ben, le cinquième, dès que tu as, voilà. Et tu viendras. Et il y a tellement d'autres sujets, peut-être qu'on fera un petit peu plus longtemps, hein. Voilà.
Chronique. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je te remercie. Je remercie Robert et puis tous mes amis libertaires, évidemment, de m'accueillir.
Chronique Hebdo, c'est terminé. Ben, on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut!